Et si la chasse ne la fait pas? Une enquête sur l'avenir de la gestion du grand gibier. Une mission proposée par Johan Davidson, avec la participation de Serge Gaffard, président de l'association de chasse La Pérolaise, Herman Roll, propriétaire du camping Moulin du Lior, et Dr Gilles Bernard, vétérinaire à la Salvetat Pérolaise. La chasse dans la France est une activité pratiquée par de nombreux adeptes. Liée au droit de propriété depuis la Révolution, elle a ses pratiquants, ses supporters et ses détracteurs. Mais selon la loi, écrite dans le Code environnemental, elle a un rôle à jouer dans la gestion de la faune sauvage. Et on est tenté de croire qu'elle est quelque chose qui est toujours là et qui ne changera pas. Serge Gaffard m'a expliqué.
Le rôle de la société, de toutes les sociétés, dont celle de la Salvetat, c'est de réguler le gros gibier, le petit gibier. C'est, pour nous, c'est un loisir. C'est de réguler le sanglier, de réguler le chevreuil qui fait des dégâts dans les forêts. Le cerf, maintenant, qui apparaît là dernièrement, depuis un an, on voit quelques cerfs, quelques biches sur le secteur.
Si on prend la France en totalité, les chiffres du grand gibier tué chaque année est en forte croissance pendant les 15 dernières années. En 2010, la chasse a tué 530 000 sangliers, 510 000 chevreuils et 52 000 cerfs, une augmentation depuis 15 ans de 500%. Serge Gaffard encore parle de la situation ici.
Le chevreuil peut être un peu en augmentation, le sanglier non. Je pense qu'on le gère à peu près, il reste à peu près dans... On est plutôt même en baisse. Depuis 2-3 ans, on est plutôt en baisse que ce que... Elle n'est pas en augmentation sur le secteur.
Aujourd'hui en France, il y a plus d'un million de chasseurs, donc 13 000 ici en Aveyron. Mais en France, le nombre des effectifs est en diminution par entre 2 et 3% par an. Et l'âge moyenne est en augmentation. Serge Gaffard parle de la situation à la Salvetat Pérolaise.
Trois dernières années, ça fait du 10%, quelque chose de près du 10%. Mais ça peut s'accentuer vu l'âge. La courbe des âges, elle est progressive. Et les entrées de jeunes, ça ne fait pas, remonte pas la moyenne d'âge. Donc, on dit 10% pour le moment, mais ça peut aller jusqu'à 20-30% dans les 10 années qui arrivent.
Et donc, pourquoi vous pensez que la chasse n'attire plus les jeunes?
Alors là, vaste débat.
Oui.
C'est un autre débat, ça. Le temps de présent. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il s'implique beaucoup de jeunes agriculteurs. Bon. Ils sont concernés, mais le temps leur manque. Le temps leur manque.
Et on a un âge moyen, donc?
De 60 ans. 60 oui, ans, oui. Juste 60 ans. Il était de 59 il y a 2 ans, il est de 60 ans maintenant. Effectivement, parce que les effectifs chasseurs sont en baisse, les taillis, les pentes sont... Il y a 30 ans de ça, tout était cultivé. Maintenant, c'est des porcheries, en parlant vulgairement.
Et le gros gibier provoque les dégâts dans les forêts et sur les cultures. L'Office national des forêts a parlé d'une situation grave, tandis qu'en France, la chasse paye chaque année plus de 20 millions d'euros pour indemniser les agriculteurs contre les dégâts des cultures, dont 80% sont provoqués par les sangliers et le reste par les cervidés.
Le dégât, c'est principalement les maïs. Et quelques mises en culture à l'automne.
Oui.
Cette année, il n'y a pas eu aucun problème. C'est surtout principalement les maïs un peu les céréales à maturité.
Et donc, est-ce qu'il vous fallait indemniser les agriculteurs dans le cas qu'il y a des dégâts?
Oui.
Et selon quelles règles? Donc, même si vous faites tout ce qu'il vous faut, s'il y a des dégâts, il faut les indemniser?
C'est pris en charge par la fédération et c'est le chasseur avec ses cotisations qui paye intégralement tous les dégâts.
Si nous nous trouvons donc en péril de perdre dans 20 ans la chasse comme elle existe aujourd'hui et le système d'indemnification qui va avec, il faut commencer à penser autrement. D'abord, peut-on encore encourager les jeunes, les femmes et les non-chasseurs? Gilles Bernard et Herman Roll.
Donc, moi, à mon idée, il faudrait peut-être augmenter la population de chasseurs, ou du moins éviter l'hémorragie de chasseurs qui se déroule en ce moment, et peut-être diminuer l'âge moyen des chasseurs, et cela peut-être en ouvrant tout simplement les sociétés de chasse à un plus grand nombre de la population. Je pense également donc aux jeunes et aux femmes, rendre donc plus attrayante et plus accessible la chasse aux femmes et aux jeunes, en donnant peut-être un côté plus ludique à la chasse et plus joyeux à la chasse. Ensuite, peut-être en augmentant la quantité ou mettre en adéquation la surpopulation d'une année sur l'autre avec le nombre d'animaux à tuer chaque année, surtout pour les grands gibiers, et peut-être penser à diminuer la cotisation nécessaire pour chaque collier de grand gibier à reverser à la société de chasse. Ça, c'est partie de mes idées qui pourraient peut-être permettre d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter l'augmentation du nombre de gibier avec la détérioration au niveau des cultures que ça pourrait entraîner.
La mission des chasseurs, de limiter les dégâts du grand gibier. Donc le fait que le nombre d'agriculteurs diminue, donc automatiquement le nombre de chasseurs issus du monde agricole va diminuer aussi. Mais ce qui est fort possible, c'est qu'il y aura d'autres groupes dans la société qui vont être intéressés par la chasse. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai appris que, par exemple, que 2% des chasseurs aujourd'hui sont des femmes. J'avais même dû... j'aurais pas cru ça. Donc, de plus en plus de chasseurs viennent des groupes d'autres groupes de la société. Donc il y a de plus en plus de cadres, il y a de fonctionnaires, il y a pas que les agriculteurs qui chassent. Et ça va changer. C'est peut-être on se trouve là dans une période de mutation, ça va changer peut-être. Moi, je connais un tout petit peu la situation aux Pays-Bas au niveau de chasse. Il faut savoir que aux Pays-Bas, il y a beaucoup moins de gibier, il y a très peu de chasseurs, mais les chasseurs qui restent sont un peu il y a des bourgeois, il y a des cadres, il y a qui chassent pour les loisirs. Bien sûr, il y a aussi quelques propriétaires terriens qui ont intérêt à protéger des cultures et à maintenir un certain équilibre dans leurs propriétés. Mais aux Pays-Bas, c'est plus le monde agricole qui chasse. Donc, là aussi, il y a une mutation qui a eu lieu. Et je pense qu'ici, ça pourrait être pareil. Il y a qui sait qu'il y, a, il y aura un moment où il y aura des citadins qui vont chasser ici, qui vont payer pour, qui sait.
Et l'exemple de bourgeoisification de la chasse a déjà mené à une crise pour les cervidés dont les hivers durs auront émonie. Les cervidés et les cerfs condamnés de mourir de faim à cause de surpopulation. Herman Rolle pense aux réponses différentes.
Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura peut-être aussi des moyens techniques qui vont être accessibles, qu'on pourrait utiliser. Qui aurait pu croire qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'on pourrait détruire un nid de frelons asiatiques avec un drone? Ça existe déjà. Il y a des drones qui ne sont pas... qui sont pas grands, ils sont aussi grands qu'une boîte de chaussures. Et qui sait qu'avec chaque animal, chaque gibier a son température corporelle à lui, et on pourrait peut-être suivre un sanglier ou un chevreuil, on pourrait le localiser exactement avec... on pourrait le voir sur une carte virtuelle. Je ne sais pas, moi, il y aura certainement de possibilités. Il y a une autre piste, sera peut-être que... j'ai entendu dire, j'en suis pas sûr, hein, mais j'ai entendu dire que, par exemple, en Suisse, toutes les cultures doivent être clôturées. Ça aussi, ça pourrait être une solution. Donc, au lieu de se plaindre que les sangliers détruisent les champs de maïs, on pourrait les clôturer. Ça ne va peut-être pas enchanter pour le moment les agriculteurs, parce que ça représente énormément de travail supplémentaire, je comprends bien. Mais qui sait que dans le futur, il y aura d'autres façons de clôturer. Maintenant, il y a déjà la possibilité d'enfermer un chien dans un enclos virtuel avec une petite file qui est enterrée donc qu'on ne voit pas, qui n'est pas gênant, etc. Mais le chien, il le sent, il le sait. Qui sait
On ne sait jamais si ça peut marcher, et on ne dit pas jamais, mais si l'agriculture change, les avis ne s'accordent pas.
La culture peut changer aussi d'ici 20 ans, parce que c'est surtout le maïs qui attire le sanglier. Est-ce que dans l'agriculture, la production de maïs va s'intensifier, va rétrograder suivant les productions? Qu'est-ce que ça va donner? On ne peut pas le savoir d'ici 20 ans. Parce que le sanglier, il habite là où il a le casse-croûte. Voilà, c'est suivant la production agricole qui attire. Après, c'est dans les bois, des châtaignes sauvages, des pommes sauvages, des vers de terre... Des glands aussi, oui, glands aussi, oui. Et comme les pentes ne se véhiculent plus avec des tracteurs, ça c'est le casse-croûte, ils l'ont sur place.
Ben, changer les cultures actuelles pour essayer d'affamer en fait la population des animaux sauvages, donc des cervidés et des chevreuils, paraît difficilement réalisable, parce que c'est tout un monde qu'il va falloir faire évoluer. Je ne sais pas vers où, mais on ne peut pas revenir au niveau des cultures en arrière et supprimer, par exemple, la culture du maïs. Ça me semble difficile d'imaginer que les bovins soient nourris avec autre chose que du maïs. Ça voudrait dire qu'on revient un petit peu en arrière, et alors qu'on essaye justement d'aller vers l'avant, diminuer, du moins augmenter la production en diminuant le nombre d'animaux. Donc changer le maïs pour autre chose, ça me paraît difficilement réalisable. Voilà.
On a parlé aussi de gérer la surpopulation autrement, en essayant de limiter les naissances. Herman l'a proposé, mais Gilles a ses doutes.
des possibilités de peut-être on va limiter la profilation des animaux, de limiter leur fertilité. Le problème des sangliers aujourd'hui, c'est entre autres le fait qu'il s'est croisé avec le cochon. Donc il se reproduit beaucoup plus vite que le sanglier sauvage. Qui sait qu'il y aura aussi une possibilité de limiter leur fertilité.
Ben, plusieurs solutions pourraient s'envisager. La première, la stérilisation des mâles ou des femelles. Là, ça me paraît un petit peu impossible à faire, puisque on est en face d'animaux sauvages, donc il faudrait pouvoir les capturer pour pouvoir ensuite les castrer, les relâcher. Quitte à les capturer, peut-être ne pas les réveiller, par exemple. Ce serait... Sinon, castrer des femelles, plus difficile. Castrer des mâles, oui. Donc, il faut quand même se donner la peine de les anesthésier, ce qui n'est pas facile pour des animaux sauvages vivant dans un milieu assez vaste.
En tout cas, tout le monde est d'accord sur la réintroduction des prédateurs.
Ensuite, là, une autre solution, ce serait réintroduire des espèces donc, sauvages et donc des prédateurs. Pour le chevreuil, je pense que les loups feraient l'affaire. Par contre, pour les cervidés, les grands cervidés, je ne vois pas trop quels sont leurs prédateurs dans le milieu européen. Et je ne sais pas si on parle de réintroduction du loup un petit peu partout en France. Est-ce que ça ne va pas provoquer quelques petits... désagrément pour certains, voilà.
Si on voit déjà les problèmes qu'il y a avec les quelques pauvres loups qui essayent d'entrer en France à partir d'Italie, les problèmes que ça cause, les 3 ou 4 ours. Le brouhaha que ça fait, le problème que ça cause. Moi, je ne pense pas que le loup, et surtout pas l'ours, a beaucoup de chances de survivre longtemps en Aveyron. Hein. Et ici, c'est beaucoup plus trop habité. Et surtout, il y a beaucoup trop de bétail, parce que le loup, c'est un paresseux comme tout le monde. Et il va s'attaquer aux vaches et aux chèvres, aux moutons, etc. Donc, non, ça va. Oh là là, des loups ici, ça va provoquer une pagaille, mais terrible. Ah non, jamais. Non, je ne crois pas que c'est possible.
Et finalement, s'il n'y a rien qui va marcher, on se trouvera où?
Difficilement s'imaginer... qui n'aura pas de chasse ici, parce que sans chasse très très vite on sera envahi par des sangliers, des chevreuils, etc. Et les agriculteurs ils seront pas contents. Parfois les pratiques de chasse d'aujourd'hui me rebute un peu. Oui, ça c'est vrai, je suis pas 100% pour la chasse comme elle est pratiquée aujourd'hui, maintenant. Mais la chasse, les chasseurs, les sociétés de chasse, ils ont un rôle à jouer, ils l'ont toujours eu. L'homme est a toujours été un chasseur, donc je crois que ça va pas finir de bientôt.
Si on prend les raisonnements de la fédération départementale, elle parle sur des regroupements de petites sociétés. Comme les exploitations agricoles, elles se regroupent pour faire une moyenne ou une grosse. Et là, la tendance, il n'y a pas le choix. Je pense que ce sera vers là qu'il faudra se retourner. Pour couvrir le terrain, ce sera beaucoup plus dur. Régulier d'une bonne manière, ce sera difficile. Surtout avec les reliefs qu'on a dans la région. On ne peut pas organiser des battues administratives vues d'en haut, vues de loin, c'est très difficile. Même quelqu'un du coin ici se fait piéger bien souvent. Alors quelqu'un qui arrive qui ne connaît pas le secteur, eh bien, des chasses de nuit, des chasses organisées, c'est très difficile. Alors je ne sais pas, c'est une question qui reste posée.
Évidemment, la question n'est pas facile. Mais faute d'autres propositions, la chasse doit exercer une fonction de régulation des excès des populations. Les grands gibiers n'ayant plus de prédateurs, la chasse est indispensable pour maintenir un équilibre écologique par cette fonction. Mais si l'équilibre doit être maintenu, n'oublions pas toutefois le plaisir procuré par la vue de ces grands animaux, que l'on peut surprendre parfois avec beaucoup de difficultés. Nous devons préserver les grands animaux au milieu naturel. L'écosystème constitue sans doute la plus importante des unités écologiques et c'est notre avenir qui est en jeu. Et si la chasse ne la fait pas, une mission proposée par Johan Davidson avec la participation de Serge Gaffard, Herman Roll et Dr. Gilles Bernard. Bonne continuation d'écoute sur Radio Sans Fréquence.